La Méridienne.
Et tout de suite, on est en compagnie de Jean-François pour une chronique Nuances du Monde. Bonjour.
Bonjour, ça va ?
Ça va bien et toi ?
Ça va très bien, merci.
Bon, de quoi est-ce qu'on parle aujourd'hui ?
Alors aujourd'hui, j'avais envie d'aborder la révocation de l'édit de Nantes.
D'accord.
Je vais te faire un petit voyage spatio-temporel pour introduire le sujet, tu vas voir. Donc, imagine-toi à New York, au XVIIIe siècle. Ouais. Plus précisément au cimetière de Trinity Church, en plein cœur de Manhattan. Et en te baladant, au milieu des tombes, tu lis cette épitaphe. C.J., le corps d'Elias Snow, catéchiste à New York, né à Soubise, province de Saintonge, en France. Et autour de cette tombe, tu en vois de nombreux autres avec des prénoms tout droit sortis d'une vieille Bible en français, comme Suzanne, Elias, Benjamin, etc. Ben, ces tombes, elles ne sont pas là par hasard. Elles sont la conséquence d'une décision prise par Louis XIV, le 18 octobre 1685, celle de révoquer l'édit de Nantes. Le roi Soleil fait ainsi du catholicisme la seule religion tolérée dans le royaume de France. Les protestants français n'ont alors d'autre choix que de se convertir, vivre leur foi en se cachant ou bien émigrer comme nos disparus new-yorkais du coup. En effet, donc ce 18 octobre 1685, à Fontainebleau, le roi Louis XIV révoque l'édit de tolérance signé à Nantes par son grand-père Henri IV en 1598. Par ce nouvel édit, le roi Soleil signifie qu'il n'y a plus de religion autorisée en France en dehors de la religion catholique. C'est un coup dur pour la minorité protestante, encore assez nombreuse malgré les brimades et les persécutions antérieures. Alors après un début de règne glorieux, le roi Louis XIV veut apparaître en France et en Europe comme le champion du catholicisme. Sur les conseils de son entourage, il décide donc d'extirper progressivement l'hérésie protestante de son royaume. Il reproche aux Huguenots, c'est le nom qu'on donnait aux protestants français, leur sympathie pour l'Angleterre et les provinces unies des Pays-Bas qui étaient des pays protestants. Et surtout, comme la grande majorité des Français et des Européens de son temps, il admet mal que deux religions puissent cohabiter dans un même État. Une politique anti-protestante se met donc progressivement en place. D'abord, une caisse des conversions tente sans grand succès de convertir les calvinistes, les plus pauvres, contre espèces sonnantes et trébuchantes, contre argent, quoi. Puis, dans les provinces, les intendants recourent à des manières plus brutales, comme d'enlever des enfants pour les baptiser en dépit de leurs parents. Certains imaginent aussi de loger des dragons de l'armée chez les adeptes de la religion prétendue réformée, les protestants donc. Ces missionnaires armés se comportent comme en pays conquis, n'ayant pas scrupule à piller, violer et parfois tuer leurs hôtes. Par le fait de ces dragonnades, les conversions forcées se multiplient. En conséquence, et sur la foi de rapports optimistes, le roi Soleil en vient à croire que la religion réformée n'est plus pratiquée dans son royaume. Il considère donc que la tolérance instituée par Henri IV n'a plus lieu d'être. Il promulgue donc alors l'édit de Fontainebleau. Le roi interdit ainsi la pratique du culte protestant, ordonne la démolition des temples et des écoles, oblige à baptiser dans la foi catholique tous les enfants à naître, ordonne aux pasteurs de quitter la France, mais interdit cependant aux simples fidèles d'en faire autant, sous peine de galère. L'opinion catholique, y compris les plus justes écrivains de l'époque, comme La Fontaine par exemple, La Bruyère ou Madame de Sévigné, applaudit à la mesure. Dans l'entourage du roi, il n'y a que Vauban qui s'y oppose avec une honnêteté et courageuse lucidité. Car en effet, cette décision sera un désastre politique et moral et économique. Très vite, le roi peut mesurer l'étendue de son erreur. Des foyers de résistance se forment. Les dragonnades doivent reprendre, dans les Cévennes par exemple, avec la révolte des Camisards qui éclate en 1702. Sans attendre la publication de l'édit de Fontainebleau, et malgré l'interdiction qui leur est faite de s'enfuir, près de 300 000 protestants quittent la France pour des refuges tels que Berlin, Londres, Genève, Amsterdam, New York, ou même le Cap en Afrique du Sud. Ils seront rejoints par 200 000 autres coreligionnaires après le 18 octobre 1685. Ces exilés, surtout issus de la bourgeoisie laborieuse, vont faire la fortune de leur pays d'accueil et leur départ va appauvrir la France en la privant de nombreux talents. Ils vont aussi nourrir les ressentiments contre la France et son monarque. D'ailleurs, Saint-Simon, opposant au monarque absolu, va dénoncer, je cite, « ce complot affreux qui dépeupla un quart du royaume, qui ruina son commerce et qui l'affaiblit dans toutes ses parties ». Alors, on a beaucoup quand même écrit sur les réussites et les apports des Huguenots à l'étranger, leur contribution à la diffusion des arts, des sciences et des techniques. Cette vision héroïque qui magnifie les success stories pour déplorer le retard subi par contre-coup par le royaume de France est remise en question depuis à peu près une quinzaine d'années par les historiens contemporains. Bien sûr, certains expatriés connaissent des réussites éblouissantes dans de nombreux domaines. Mmh. On a l'exemple du haut-gonneau Étienne Delancy, par exemple, qui avait fui Caen pour Rotterdam avec seulement une partie de ses bijoux de famille cachés dans ses vêtements. Eh ben, il devient, sous le nom anglicisé de Stephen Delancy, l'un des marchands les plus prospères de New York. Mais d'autres échouent, et ils sont très nombreux. Ils échouent à s'intégrer. C'est par exemple très fréquent dans les Provinces-Unies, et nombreux finissent même par rentrer au pays. De plus, la présence huguenote n'est pas toujours bien acceptée par les habitants des pays étrangers. On soupçonne toujours les Français d'être des traîtres en puissance, des catholiques déguisés et des concurrents déloyaux sur le marché du travail, de la nourriture ou du logement. Quoi qu'il en soit, la monarchie française va attendre près d'un siècle pour qu'en 1787, Louis XVI institue par l'édit de Versailles l'édit de tolérance qui mit officiellement fin aux persécutions des protestants en France. Mmh. Deux ans plus tard, la Révolution française, en 1789, leur redonne un total droit de cité.
D'accord. Un siècle donc de persécution...
Et d'exclusion du Royaume de France pour les protestants.
Merci beaucoup Jean-François.
De rien. Au revoir.
À très bientôt. La Méridienne.